tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profond encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon, bientôt ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Les enfants ont plus besoin de guides pour lire que pour marcher, a déclaré un certain plus tard qu'on est bien d'accord avec lui. Merci beaucoup d'être là, c'est Clotilde Seille à l'émission Un livre découvert, Clotilde Seille et ses invités, bien sûr.
La table des matières.
Alors aujourd'hui à l'émission, nous allons débuter avec notre invitée spéciale qui aujourd'hui est Marie-Claude Lortie qui est déjà en studio. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Clotilde.
Ça va bien. Nous irons ensuite, mais par téléphone cette fois-ci, nous allons nous entretenir avec Jean Brière. C'est une nouvelle voix à l'émission, nouveau chroniqueur, abonné du SQLA qui va partager avec nous une lecture et je suis très heureux, c'est une lecture, c'est un livre de Sylvain Lelièvre. Ensuite, nous aurons droit au classique de la semaine. Cette semaine, je revisite pour vous 1984. De George Orwell. Et puis, bien, le bénévole du jour, ce sera la bénévole du jour et ce sera moi parce que j'avais envie, très envie, enfin de vous présenter Plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, un livre qui a été assez long à produire et on comprendra pourquoi. Il y a quand même 950 pages et plus, c'est 35 heures de lecture, mais ça y est, maintenant, comme tous les autres livres d'ailleurs dont il sera question à cette émission, il est disponible en format audio pour vous. Des nouvelles et des livres, c'est la saison des prix. Nous allons voir qui a remporté le Grand Prix de Montréal et puis aussi nous avons un prix du gouverneur général avec Gabriel Nadeau-Dubois et son essai Tenir tête, Monsieur Nadeau-Dubois, qui va venir faire l'émission dès qu'il aura décidé de reparler aux médias. Mais pour l'instant, il ne veut pas parler aux médias, sauf à tout le monde en parle. Bon, sous les joudis, c'est la vie, je ne peux pas rivaliser. Et puis nous finirons bien sûr l'émission avec quelques titres en rafale.
Chapitre 1. L'invité spécial.
Marie-Claude Lortie, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Très heureuse de vous recevoir, chroniqueuse évidemment à la presse.
Merci.
Je n'en prie, c'est la moindre des choses. Je vous ai invité parce qu'on a quelque chose en commun qui est qu'on aime bien manger. Et vous, vous en avez fait votre métier. C'est déjà un régal de vous lire. Mais alors, en plus, quand on découvre ce que vous nous faites découvrir, alors là, c'est carrément délice ou supplice. En tout cas, ça, on verra ça. Et Marie-Claude, on va aborder deux livres aujourd'hui. D'abord, on va parler d'un livre dont vous avez eu envie de nous parler. Alors, vous allez nous dire de quoi il s'agit. Et d'un livre auquel vous avez participé par la suite. On va commencer par celui que vous avez amené sous votre bras. Quel est ce livre?
C'est le livre Métis Beach qui a été écrit par Claudine Bourbonnais, qui est journaliste comme moi, qui travaille à Radio-Canada et qu'on voit à RDI, qui est lectrice de nouvelles, mais qui est d'abord et avant tout journaliste, et avec qui je suis, qui est une amie de très longue date, avec qui je suis allée à l'université. Et j'étais absolument ravie de découvrir qu'elle était romancière parce qu'elle était un peu secrète. J'étais pas au courant de ça. Et j'ai absolument dévoré son livre, vraiment objectivement. Et je suis pas la seule à avoir adoré.
Je lisais une critique qui disait « Il y a la Claudine Bourbonnais à la voix douce et au trait délicat », c'était dans la presse d'ailleurs, qui présente les nouvelles le matin à RDI. Oui. « Il y a l'autre, l'écrivaine délurée qu'on découvre à la lecture de Métis Beach, en à peine à croire qu'il s'agit de la même personne. Pourquoi donc ?»
Mais
ça
c'est
raconte
vrai,
quoi, ce bouquin?
C'est vrai. C'est un livre... je ne veux pas dévoiler trop de secrets parce que c'est un livre qui est articulé autour de rebondissements, mm-hmm. puis donc d'actions inattendues. Là. Donc, je ne vais pas vous dire tout de suite ce qui se passe. Mais en gros, c'est un livre qui se passe à travers l'Amérique,
ouais,
qui commence à Los Angeles avec un personnage principal qui s'appelle Roman Carr, mais dont on va découvrir qu'en fait, c'est Romain Carrier, qui est un Québécois à l'origine et qui vient de Métis Beach, qui est ce village dans le bas du fleuve et qu'on connaît un peu à cause des jardins de Métis.
Les jardins de Métis.
Qui est un lieu de villégiature où se côtoyaient ou se sont côtoyés pendant des décennies, pour pas dire des siècles, des familles québécoises modestes qui travaillaient là, qui habitaient là, avec des grandes familles anglophones qui étaient les familles qui venaient là pour passer leurs vacances au frais. Et ben, c'est l'histoire d'ailleurs de la femme des jardins de Métis. Et cette trame-là est importante, cette dualité-là est importante pour la trame de l'histoire qui va ensuite se promener à travers l'Amérique parce que le fameux Romain Carrier de Métis Beach, il va éventuellement arriver à Los Angeles, mais il va se promener avant à New York, à San Francisco. Et à travers les années, il va aussi voyager à travers l'histoire de l'Amérique des dernières 40 années, je dirais.
Oui, parce que c'est ça. L'Amérique est un personnage central.
Absolument.
On est dans les années 70, je pense.
Oui.
C'est ça, 62 à peu près. Oui. Enfin, en tout cas, lui quand il part de son village, en 62.
Puis on va parler beaucoup de la... des étudiants de Berkeley, l'émancipation des Noirs, John F. Kennedy, en fait, c'est tout ça. Là. Puis ça va jusqu'à maintenant, jusqu'à très récemment, avec la remontée de la droite religieuse américaine, etc. Ouais.
Alors, je vous rappelle que la voix que vous entendez, c'est celle de Marie-Claude Lortie qui nous présente Métis Beach de Claudine Bourbonnais. J'ai un petit extrait à vous faire entendre.
J'ai hâte d'entendre ça.
Parce que tel que ça a été lu ici par un bénévole de chez Vues et Voix. Alors, on est au début du livre. Le personnage, Carr, en question, il est très fâché parce qu'il y a des bien-pensants qui manifestent devant les studios de télé.
Contre sa série télé.
Alors, c'est l'épisode que j'ai. C'est le petit extrait que j'ai choisi.
Ce matin d'octobre 1995, je m'étais levé à l'aube, encore énervé par la réunion de la veille. La lumière du petit jour, grise, trop tôt pour apprécier les collines de l'autre côté du canyon et leurs noms en grandes lettres blanches que l'épais smog qui montait de la ville dérobait à la vue. Ce spectacle, c'était pour moi la consécration de ma réussite, un sentiment de revanche éprouvé chaque fois que je le contemplais de la fenêtre de mon bureau, dans notre maison, tout en haut d'Appian Way. Dans la voiture, sur le chemin du retour, j'avais lancé ma colère sur Anne, que la véhémence de mon ton avait troublée. Je le vis à la façon dont elle s'était raidie sur son siège et m'en était voulu aussitôt. Si c'est ça le succès, je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? À nous museler? À nous enlever la liberté d'écrire? C'est l'argent, merde, qui est en train de nous rendre peureux. Elle m'avait touché le bras et dit d'une voix ferme mais douce que je lui entendais dans ces moments-là, quand elle cherchait à me calmer. « Ok, Romain, oublie ce qui vient de se passer. Ça n'arrivera plus, tu verras. » Et j'avais pensé, « Comment peux-tu en être aussi sûr ?» C'étaient les avortements de chastité qui provoquaient les réactions les plus virulentes. Des lettres, des appels, parfois des menaces, sans compter les petits groupes de manifestants qui avaient commencé à parader en silence devant le studio que nous appelions le bunker dans la Bréa, leur colère rouge comme le sang imprimé sur leurs pancartes, des militants pro-vigne à la mine funeste. Ils arrivaient tôt le matin, leurs glacières et leurs chaises pliantes sous le bras, comme s'ils se préparaient à assister à un match de baseball, et repartaient tard le soir avec, j'imaginais, le sentiment d'avoir changé les choses. Nous les ignorions, ils nous ignoraient. Nous faisions notre travail, ils faisaient le leur. Chacun défendant sa conception de la liberté d'expression dans ce pays, gardant ses distances avec l'autre dans un respect fin mais civilisé. Pour moi, ça ne posait pas de problème. Pour moi, c'était ça, les États-Unis.
«
Ça vous fait sourire, ce God Bless America à la fin de l'extrait?
Oui, mais j'étais au lancement, puis Jacques Godbout a dit que ce livre-là, c'était probablement le premier grand roman américain écrit en français.
Ah bien, voyez-vous, je l'ignorais, Marie-Claude Lortie, alors je suis d'autant plus contente de ces petits choix musicaux.
Mais je pense que vous allez l'aimer, parce que c'est vraiment un livre qui... c'est un livre qui se dévore... c'est ce que les Américains appellent un page-turner. On a envie de savoir quelle va être la prochaine... Parce que tout le monde a des secrets, il y a des choses cachées à travers tout, en fait.
Mais ce qui est bien, c'est que je l'inviterai, Madame Bourbonnais.
Ben oui.
Ce serait sympathique. Je pourrais lui faire entendre ce que vous avez dit. Et elle nous parlera, par contre, parce que c'est la loi de cette émission, d'un livre...
D'un autre livre.
Voilà. Mais là, vous, cette fois-ci... Ah, Marie-Claude Lortie. Comment ne pas associer ce livre « Manger » avec un point d'exclamation? Je veux dire, ça prend ce point d'exclamation à vous, à votre travail et aussi à Guylaine Guévremont, puisque vous avez écrit ce livre ensemble.
Oui, on a écrit ce livre ensemble en 2006.
Oui.
Vous voulez que je vous raconte l'histoire un peu?
Moi, je
suis une gourmande.
During the club.
Vous vous en doutez, je travaille comme critique gastronomique à la presse. J'écris beaucoup sur la gastronomie, mais je suis d'abord et avant tout une gourmande. Et ma relation avec les kilos a été tumultueuse pendant de très nombreuses années. Mais à un moment donné, tout ça finit par se calmer. Et d'une façon que j'avais de la difficulté à expliquer, jusqu'au jour où j'ai rencontré Guylaine, où quelqu'un m'a parlé de Guylaine. Parce que sa théorie à Guylaine, qui est nutritionniste, c'est que on a le poids qu'on doit avoir quand on mange à sa faim. Je résume ça en une phrase, ça a l'air très simple.
Mais c'est
un
parfait
programme de vie complet et total. Ce qui veut dire que on mange quand on fait la paix dans sa tête, on finit par réapprendre physiquement quels sont nos réels besoins alimentaires et par le fait même de ne pas trop manger et de manger suffisamment. Et c'est ce qui nous mène finalement vers le poids qu'on doit avoir. Et le poids qu'on doit avoir et qui nous ramène avec une paix d'esprit, en fait. Donc, ça s'appelait « Manger », mais si on aurait pu l'appeler « Vive l'appétit libre
».
Parce que c'est un livre qui parle beaucoup de liberté alimentaire. Je pense que c'est un concept qui était fondamental dans toute la rédaction du livre puis dans toute la philosophie de Guylaine. C'est que les femmes et de plus en plus d'hommes aujourd'hui vivent avec l'alimentation comme une prison. L'alimentation est leur prison. Ils se réveillent le matin en se demandant combien ils vont manger. Chaque minute, chaque bouchée, tout est calculé. Soit calculé s'ils réussissent à se contrôler totalement, soit devient de la culpabilité si le contrôle fait place à un certain excès ou un triomphe de, je ne sais pas, peut-être de l'inconscient, de quelque chose d'autre, et devient une guerre. À ce moment-là, l'alimentation devient une guerre. Notre tête nous dit quelque chose, notre cœur nous en dit une autre. On vit d'un excès à une privation, à un autre excès, à une autre privation. Enfin, pour moi, tout ça, c'est une prison. Et ce que je voulais, avec Guylaine, c'était écrire comment retrouver la liberté.
Ouais.
Comment se libérer.
Et moi, je vous en remercie. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion à maintes reprises de remercier Guylaine parce que, honnêtement, si on me demande aujourd'hui quel a été le livre le plus important dans ta vie, c'est « Manger ».
Mon Dieu!
C'est « Manger ». Oui, parce que j'ai fait... très rapidement, j'ai été au régime 50 ans, moi. On m'a mise au régime à l'âge de 4 mois et j'ai vécu l'horreur jusqu'à 50 ans. Alors, bon, on passera tous les détails, tout ce que vivent tous les gens qui se privent jusqu'au jour où je suis tombée sur ce bouquin et là où elle disait, entre autres au début, « Tous les jours, dans le cadre de mon travail, je rencontre des femmes et des hommes qui désirent perdre du poids. Presque chaque fois, le récit de leur lutte contre les kilos en trop est empreint de désespoir et de souffrance. » Moi, c'est là que j'en étais. J'ai failli en mourir.
Oh.
Alors, quand tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un qui te dit « Mais mange et on va te réapprendre à faire ça », comme on réapprend à un enfant à marcher, parce que lorsqu'on prive un enfant de nourriture, à un moment donné, il va falloir lui réapprendre à manger. De la même façon que si on le privait de ses jambes, il faudrait lui réapprendre à marcher. Et c'est donc ce que permet ce livre-là, qui, je vous le rappelle, a été co-écrit par Guylaine Guévremont. Et vous, Marie-Claude, vous apportez beaucoup de témoignages, hein, beaucoup d'anecdotes là-dedans, hein, c'est dans mes souvenirs en tout cas. Et il est enregistré chez Vues et Voix, chez OSQLA. Je ne vous cache pas que Guylaine en a écrit deux autres depuis, qui pour l'instant ne sont pas encore enregistrés. Mais croyez bien que je vais tout faire pour corriger cette erreur et que ce sera fait en 2015. Donc voilà, Manger avec un point d'exclamation par Guylaine Guévremont et Marie-Claude Lorty que je recevais. Marie-Claude, merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez
merci
un horaire chargé.
Vous.
Puis je suis très, très heureuse. Merci d'avoir fait le petit détour.
Merci et bon appétit libre.
Moi, je suis d'une ruelle, comme on est d'un village, entre les hangars de tôle, puis les sacs à poubelle, entre la 8 puis la 9, entre la 2 puis la 3, entre l'école puis l'église, ma petite enfance est là. Quand on est de la basse ville, on n'est pas de la haute ville. Il y en a qui s'en souviennent, d'autres qui s'en souviennent pas. Moi, c'est par là que mes rêves se font des téléphones. Les jours que le mien sonne plus, que j'attends plus personne. Dimanche après-midi, à Tabagie d'en face, un cornet de crème à glace, à deux boules, s'il vous plaît, un concours de yo-yo, et pendant qu'à la radio, Monsieur Jean Béliveau fait son tour du chapeau. Quand on est de la basse ville, on n'est pas de la haute ville. Y en a qui s'en souviennent, d'autres qui s'en souviennent pas. Moi, c'est par là que mes rêves se font des téléphones. Les jours que le mien sonne plus, que j'attends plus personne. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Il pousse des pissenlits dans les cracks du trottoir. Avec ma première blonde, on joue plus tard le soir. On fait le tour du bloc en bicycle. Quand on est de la basse ville, on n'est pas de la haute ville. Y en a qui s'en souviennent, d'autres qui aiment peut-être mieux pas. Moi, c'est par là que mes rêves se font des téléphones. Les jours que le mien sonne plus, que j'attends plus personne.
Chapitre 2. Les livres audio, ils en mangent.
Et ce n'est pas par hasard si nous avons choisi Sylvain Lelièvre avec La Basse Ville, c'est parce que là, je suis en direct par téléphone avec Jean Brière de Québec. Bonjour, Monsieur Brière.
Bonjour Clotilde, comment allez-vous?
Mais je vais très très bien. Jean, je suis très heureuse de vous accueillir à cette émission. Vous êtes une voix nouvelle, c'est la première fois que vous participez à l'émission Un livre découvert pour parler d'un livre. Et quel livre? Le livre, le seul roman, si je ne m'abuse, de M. Sylvain Lelièvre que nous venons d'entendre.
Ah oui, tout à fait. Puis tout le plaisir est pour moi parce que une des principales satisfactions pour un admirateur comme moi de Sylvain Lelièvre après l'écoute de ses chansons, c'est d'en parler.
Ah, à ce point-là, vous êtes un amoureux et de l'auteur et de l'auteur-compositeur-interprète.
Exactement. Ah oui, je vous une grande admiration. Pour Sylvain Lelièvre qui a produit durant sa carrière 13 albums que je possède tous, que j'ai écoutés abondamment. Je l'ai vu, je l'ai assisté à une dizaine de ses spectacles, mais je n'ai jamais osé aller lui parler. Alors, je me reprends aujourd'hui en parlant de lui.
Oh, ça, c'est une belle histoire. Ben, vous savez quoi? Je suis sûre qu'il nous écoute. Mais alors donc, vous avez lu de Sylvain Lelièvre, parce que c'est disponible au SQLA, Le Troisième Orchestre.
Oui, c'est un roman de 1996. C'est son unique roman, comme vous l'aviez dit. Le second est resté en chantier à sa mort en 2002. Ouais. Et puis, c'est un roman que je qualifierais d'initiatique pour un adolescent. Ça nous raconte la vie d'un adolescent des années 50. Qui va au collège classique. Hein. On se réconcilie un peu avec les collèges classiques. Ça montre une image plus nuancée de la vie, du travail des frères enseignants de cette époque-là.
Oui.
Et c'est un roman qui n'est pas très long, hein, qui a une durée de 3 heures, mais qui est vraiment très, très dense et très intense. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Je l'ai relu pour les fins de votre entrevue. Ça doit bien faire 5 fois que je le relis sans jamais m'ennuyer.
Alors, vous vous êtes replongé dans le Limoilou des années 50, parce qu'on parle bien de la basse ville. Limoilou, c'est bien ça?
Oui, exactement. Mais, la chanson est appropriée parce que dans le roman, évidemment, on nous montre un peu l'opposition entre le quartier populaire de Limoilou et les gens plus fortunés de la haute ville.
J'ai lu qu'il y a des moments drôles, il y a des moments poétiques. Évidemment, on parle beaucoup de musique. Parlez-nous un petit peu de tout ça.
Tout à fait. C'est l'histoire donc d'un adolescent surdoué qui fait son cours classique dans les années 50 et puis qui est au contact d'un ami de collège anglais et fortuné. Ben, il découvre à son contact un monde inconnu dans son milieu populaire. Il découvre l'amour, le jazz, l'érotisme, l'alcool, des choses auxquelles il n'a pas accès dans son milieu populaire de Limoilou. Ensemble, les deux garçons là, de 15 ans environ, 15-16 ans, ils ont une fascination pour un orchestre de jazz des années 30 et 40, l'orchestre d'Eddie Dotchin. Et c'est pour ça que ça s'appelle le Troisième Orchestre. Et ils font des recherches ensemble sur les enregistrements originaux, sur 78 tours, ils discutent de ça, puis ils développent une amitié assez tourmentée par des problèmes d'alcool de son ami. Puis, au travers de ça, l'adolescent, qui s'appelle Benoît Blondeau, il découvre toutes sortes de choses. Il rencontre des gens différents. Et il développe aussi une passion pour la musique. Il devient un pianiste. C'est très, très, très beau.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup, passionnément, de l'autobiographie là-dedans, un petit peu dans ce roman?
Ah oui, il y a sûrement de grands segments autobiographiques, bien que ça soit pas tout à fait la famille de Sylvain qui est décrit là-dedans, là, je dirais même pas du tout, là. Mais il y a de grands segments. Mais c'est difficile de départager qu'est-ce qui est vrai de ce qui est de la fiction. Mm-hmm. Quoique, il y a sûrement beaucoup de réalité là-dedans qui est révélée de la vie de Sylvain Lelièvre, parce que tout au long du roman, il y a certaines références pour qui connaît ses chansons, des petits clins d'œil là, à des chansons qu'il a écrites. l'intérêt pour le cinéma qui se matérialise là-dedans dans le théâtre. C'est très, très beau.
Un livre à lire, dit un lecteur qui écrit une critique dans le net que j'ai trouvé. Faites-vous un chocolat chaud, enroulez-vous dans une couverte et pelotonnez-vous sur votre divan avec ce livre et un chat. Vous m'en direz des nouvelles.
Ah oui, tout à fait, c'est approprié. Puis moi, j'avais lu sur la quatrième de couverture un commentaire de élogieux, il décrivait un peu le roman, puis il termine la personne en disant, en parlant du premier roman de Sylvain Lelièvre, il signe ici sa plus longue chanson.
Oh, que c'est joli.
Okay. C'est beau.
Et c'est Gilles Vigneault qui a préfacé ce livre-là. Oui, absolument. C'était Gilles Vigneault qui avait préfacé ce livre dont nous parlons, Le Troisième Orchestre de Sylvain Lelièvre. Si vous me le permettez, restez avec nous, ne raccrochez pas. Je voudrais en lire un petit extrait. Ça vous dérange pas ? C'est le tout début, chapitre 1. Ce matin, Tocate et Fugue en personne est venu nous présenter un nouvel élève. Je dis en personne parce que le père directeur, on ne le voit jamais, sauf dans les messes de circonstances ou à la distribution des prix. Il paraît que c'est un saint homme, qu'il a des connexions au Parlement et qu'il s'exerce à l'orgue, tout seul, le soir, à la chapelle, d'où son surnom. Quoi qu'il en soit, la procédure est inhabituelle. Normalement, c'est le préfet des études qui s'occupe des rescapés, comme on dit. On flairait le mystère. « Messieurs, annonce-t-il, je vous demande d'accueillir parmi vous quelqu'un dont je sais déjà que vous le recevrez comme un confrère de classe. » Sur quoi, d'un geste ecclésiastique combiné de l'œil et de la main gauche, il invite à rentrer un jeune homme de forte prestance, un peu dégingandé dans son blazer marine, avec fraîchement cousu sur la pochette un écusson tout neuf du collège. Le quart arrière qui nous manquait, hostie, souffle à son voisin, le grand Fradette, mais tout le monde a entendu, Tocate et Fugue aussi. Monsieur Fradette m'apportera dès cet après-midi 2 heures, n'est-ce pas, son billet de confession. En attendant, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Hubert Ross, qui nous arrive de chez les Pères Jésuites. Tare légère, n'est-ce pas, que nous saurons bien vite corriger, j'en suis sûr, n'est-ce pas? Personne ne rit, un ange passe. Monsieur Brière, alors c'est ce Hubert Ross qui va devenir le grand ami.
C'est lui le grand ami, c'est lui qui va, si vous me permettez l'expression, déniaiser notre jeune Benoît.
Qui en avait bien besoin?
Oh, je pense que oui, mais je pense qu'ils vont évoluer ensemble et c'est vraiment magnifique. Benoît développe une grande passion pour la musique. Il s'en éloigne plus tard, mais il y reviendra si on se fie à la portion de la véritable vie de Sylvain.
Monsieur Brière, je vous remercie beaucoup d'avoir choisi ce livre, d'avoir honoré la mémoire de Sylvain Lelièvre. Vous comme moi, j'ai été extrêmement touchée, émue, très triste lorsque Sylvain nous a quittés. Alors, je vous remercie d'avoir évoqué son nom, sa mémoire, et je vais vous donner un autre rendez-vous. Vous allez revenir parce que vous lisez beaucoup.
Ah, j'aime bien ça. J'ai une idée pour un autre livre. Puis entre-temps, j'invite aussi les lecteurs à aller réécouter leurs albums de Sylvain Lelièvre.
Bravo, vous avez bien raison, Monsieur Brière. Et moi, je les invite à prendre contact avec moi pour venir eux aussi nous parler de livres qu'ils ont aimés. À bientôt, Jean Brière, et merci d'avoir été là.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir. Alors, je vous rappelle que vous êtes toujours en compagnie de Clotilde Seil, vous êtes sur Canal M et c'est l'émission À Livre Découvert qui vous permet, je l'espère du moins, de vous faire découvrir, de vous donner envie d'aller vous procurer des livres, soit via le SQLA ou encore l'INCA, des livres que vous avez envie de dévorer et que nous enregistrons chez les uns ou chez les autres, et notamment ici, chez Vues et Voix. Vous savez qu'on enregistre au-delà de 800 livres par année quand même. Alors, on ne peut pas parler des 800 qui sortent par année, mais j'essaie de faire le tri au milieu de tout cela. Alors, soyez les bienvenus si vous venez juste de vous joindre à nous.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Et oui, comme toutes les semaines, j'aime bien revisiter un classique, savoir pourquoi, comment est-ce qu'il a été écrit, comment il a été reçu. Et cette année, j'ai choisi pour vous, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cette année, parce que j'avais l'œil sur le titre du livre qui n'est nul autre que 1984. Ah là là, donc 1984 de George Orwell, bien sûr, livre culte, livre 1984 qui a marqué de son empreinte indélébile l'histoire de la littérature de science-fiction. Il faudrait rappeler que ce livre a été publié en 1949 et c'était seulement quelques mois avant la mort de George Orwell. Orwell qui était journaliste, qui était un critique de talent déjà connu pour ses essais politiques et son engagement à gauche, Monsieur George Orwell, de son vrai nom, Eric Arthur Blair. 2 ans avant de sortir ce livre, Monsieur George Orwell avait perdu sa femme et c'est quelqu'un qui restait seul en plus avec un nouveau-né sur les bras et il était de santé pour le moins fragile. D'ailleurs, la légende dit que les médecins lui avaient supprimé sa machine à écrire et que Orwell continuait quand même à écrire en cachette sous ses draps avec un stylo à billes. Bon, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas, mais peu importe. Toujours est-il que 1984 est une œuvre incontournable. Faut-il rappeler, oui, je vais vous faire un petit résumé, évidemment, nous sommes à Londres, c'est la capitale de l'Océanie. Cette ville encombrée des ruines des guerres passées, dominée par les 4 immeubles des ministères, ministère de la vérité, ministère de la paix, ministère de l'amour et le ministère de l'abondance. Et là, il me semble entendre certains qui font « Ah oui, c'est ça, ah oui, c'est ça ». Je vous dis, ça va vous donner envie de le relire. Et partout, à chaque coin de rue, dans votre bureau, dans votre appartement, il y a ce visage, le visage de Big Brother, chef suprême du parti. Et partout, il y a des télécrans qui scrutent vos gestes, votre visage et le moindre de vos réflexes et qui traquent les pensées ou les actions impies. Alors, bien que travaillant au ministère de la vérité, Winston Smith s'accommode très très mal de cette misérable vie. C'est un type qui est accablé par le doute, par la solitude. Il essaie d'extérioriser son malaise en écrivant un journal intime. Évidemment, en faisant ça, il rompt avec la discipline stricte imposée par le parti. Et comment ne pas douter, en effet, lorsque son travail consiste à réécrire l'histoire en modifiant chaque jour le contenu des archives du ministère pour les mettre en conformité avec l'idéologie présente, imaginez. Comment ne pas douter aussi lorsque la délégation est érigée en principe de vie, lorsque le parti façonne votre façon de penser grâce à la novlangue. Ça, j'avais oublié ça, c'est vrai, c'est la novlangue, un anglais, une espèce d'anglais épuré et simplifié. Et puis, il y a ces slogans qui sont matraqués à longueur de journée. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Et dans son désir de révolte, Winston finit par rencontrer Julia, qui est une jeune femme avec laquelle il vivra une passion pourtant interdite et qui l'entraînera dans son désir de combattre ce régime-là. Il faut savoir que lors de sa publication, 1984 a reçu les éloges de la presse et des critiques. Mais par contre, il y a l'intelligentsia et la presse d'extrême gauche qui étaient les cibles privilégiées d'Orwell, lui ont réservé un accueil pour le moins glacial. Dans les pages du Reynolds Press, Arthur Calder Marshall déclara que le seul objectif de ce livre répugnant était d'insulter l'Union soviétique et d'attiser la haine. Le public, quant à lui, a fait un triomphe au roman dès l'année de sa publication et 40 000 exemplaires se sont écoulés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le contexte politique international jouant certainement pour beaucoup, 1984 devint rapidement l'enjeu d'une terrible bataille idéologique. Publié alors que le monde entrait dans la guerre froide, le roman fut rapidement récupéré par la propagande américaine, aux grandes dames du bloc soviétique, qui en a interdit toute publication à l'intérieur de ses frontières. Et lorsqu'il y a quelques exemplaires clandestins du roman qui ont traversé le rideau de fer, certains apparatchiks furent sidérés par la justesse des écrits d'Orwell et par la compréhension de leur vie quotidienne, alors même qu'ils n'avaient jamais posé le pied à l'intérieur des frontières soviétiques. De là à imaginer que les responsables politiques de l'URSS en firent leur vade-mecum, certes. Alors, je voudrais citer le site internet qui s'appelle le Cafard Cosmique, à qui on doit cette étude-là très, 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 très bien faite autour de ce livre 1984, dont voici un extrait. C'était toujours la nuit. Les arrestations avaient invariablement lieu la nuit. Il y avait le brusque sursaut du réveil, la main rude qui secoue l'épaule, les lumières qui éblouissent, le cercle de visage dur autour du lit. Dans la grande majorité des cas, il n'y avait pas de procès, pas de déclaration d'arrestation. Des gens disparaissaient simplement, toujours pendant la nuit. Leur nom était supprimé des registres, Tout souvenir de leurs actes était effacé. Leur existence était niée, puis oubliée. Ils étaient abolis, rendus au néant, vaporisés, comme on disait. Winston, un moment, fut en proie à une sorte d'hystérie. Il se mit à écrire en un gribouillage rapide et désordonné. « Ils me fusilleront, ça m'est égal. Ils me troueront la nuque. Cela m'est égal. Abba, Big Brother. Ils visent toujours la nuque. Cela m'est égal. Abba, Big Brother. » Il se renversa sur sa chaise, légèrement honteux de lui-même, et déposa son porte-plume. Puis, il sursauta violemment. On frappait à la porte. Déjà. Il resta assis, immobile comme une souris, dans l'espoir futile que le visiteur, quel qu'il fût, s'en irait après un seul appel. Mais non, le bruit se répéta. Le pire serait de faire attendre. Son cœur battait à se rompre, mais son visage, grâce à une longue habitude, était probablement sans expression. Il se leva et se dirigea lourdement vers la porte. Voilà, un très court extrait de 1984. Nous étions précisément à la page 30 du bouquin. J'ai entre les mains une version qui date de 1964, sa date d'imprimerie. Autrement dit, c'est la date de l'année au cours duquel j'avais étudié 1984 à l'école. Voyez-vous, il est pas... c'est un livre qui a pas mal vieilli en livre de poche. Il en a vu de toutes les couleurs. D'ailleurs, les pages sont jaunes, jaunes, jaunes. 1984 de George Orwell, c'était à l'émission Un livre découvert. Le classique que je vous proposais de revisiter cette semaine.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Alors ça, le bénévole du jour, ça va peut-être en faire rire quelques-uns, mais le bénévole du jour, en fait, c'est la bénévole du jour. Et la bénévole du jour, c'est moi-même, mes amis. Ce qui se passe, c'est que, voyez-vous, j'ai enregistré un livre assez récemment dont j'avais envie de vous parler et... envie n'est pas le mot. J'avais hâte de venir vous en parler. Alors je me suis dit, tiens, et pourquoi pas maintenant, quand j'ai vu qu'il était enfin disponible en version audio, ce livre-là, qui est attendu par beaucoup d'entre vous, il s'agit de « Plaidoyer pour l'altruisme » de Mathieu Ricard. Vous savez, par un beau vendredi d'hiver, je suis entrée dans une cabine d'enregistrement de Vues et Voix, où je suis tous les vendredis après-midi, et là, dans la cabine, il y avait ce magnifique bouquin de plus de 900 pages qui m'attendait. Rien que pour lire la table des matières, ça m'a pris 1h30, c'est tout dire. Et ce livre est à mettre absolument entre toutes les mains. Surtout, je vais dire, surtout des mains politiques, des mains économiques. Vous savez, des mains décideuses qui ont plus l'habitude de manipuler de l'argent et des idées que de prodiguer des caresses, si vous voyez ce que je veux dire. Ce livre-là, c'est donc « Plaidoyer pour l'altruisme » de Mathieu Ricard. Quand on fait de la lecture bénévole, faut que je vous dise que ce livre-là est un cadeau. Il représente, je vous le disais, un peu plus de 30 heures de lecture. Je suis ressortie de cette lecture-là, consacrée à l'altruisme. Il y a des fois où j'en suis sortie complètement décomposée, parfois complètement recomposée, et puis parfois déconcertée, mais toujours plus riche de connaissances sur l'homme, dans ce qu'il a, mes amis, de plus beau, mais aussi de plus laid. Et là, vous vous dites, mais comment ça décomposer ce livre-là, plaidoyer pour l'altruisme, ne devrait-il pas au contraire nous rassurer? Mais c'est aussi ce que j'ai pensé en l'ouvrant, mais ce n'était pas l'objectif de Mathieu Ricard. Son but, c'était plutôt de nous ouvrir les yeux sur des sujets aussi variés que l'égoïsme universel, l'évolution des cultures et les différences culturelles. Par exemple, on a constaté que dans les tribus lointaines, on s'occupait beaucoup plus de collectivité que d'individualité. On n'apprend peut-être pas grand-chose, mais en tout cas pas là-dessus, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous allez en apprendre, et beaucoup. Par exemple, l'altruisme chez l'enfant, c'est assez saisissant. L'origine de la violence, d'où ça vient la violence. Le déclin de la violence aussi, ça c'est un chapitre très rassurant dont je vais vous lire un extrait un petit peu plus tard. On y parle aussi des dérives de l'individualisme, de ces mensonges éhontés de l'industrie pharmaceutique, et puis bien sûr... il y a un long chapitre qui est consacré à la façon dont chacun d'entre nous, nous pouvons cultiver l'altruisme et tant d'autres sujets, plus de 900 pages. Alors, c'est rempli d'expériences diverses, de témoignages passionnants, d'éclairages de philosophes, d'anthropologues, d'éthologues, ou simplement de gens ordinaires, comme vous et moi. Et c'est un livre aussi qui est diablement scientifique. Alors, est-ce que c'est étonnant? Non, parce que Mathieu Ricard est d'abord et avant tout un chercheur en génétique cellulaire, avant d'être celui que l'on connaît pour avoir embrassé le bouddhisme il y a 40 ans, lui qui est aujourd'hui aussi le bras droit et le principal interprète du Dalai Lama. Alors, je vous propose quelques extraits de ce plaidoyer pour l'altruisme. Peut-être que vous allez dire « Ah bon, peut-être que vous allez sourire, peut-être que vous allez vous rassurer un peu, ou alors peut-être que vous n'allez plus jamais manger un steak de la même façon », mais en tout cas, voici quelques extraits. Le premier se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Et durant la Seconde Guerre mondiale, c'est un paragraphe qui s'intitule « Éviter de tirer sur l'autre ». Il s'est donc avéré que, le plus souvent, les soldats ne tiraient que lorsqu'ils y étaient contraints par leurs supérieurs et cessaient dès que ces derniers quittaient les lieux. Selon le colonel Albert G. Brown, les chefs d'escadron et les sergents devaient aller et venir le long de la ligne de feu, frappant leurs hommes pour qu'ils ouvrent le feu. Nous avions l'impression d'avoir réussi si nous parvenions à ce que, dans tout un escadron, deux ou trois hommes tirent sur l'ennemi. La majorité des soldats évitent d'obtempérer aux ordres. Certains mettent l'arme sur l'épaule et font semblant de tirer. D'autres tirent au-dessus ou à côté de leur cible. Il en est de même qui expliquent avec fierté et satisfaction comment ils ont réussi à désobéir à l'ordre de tuer. Alors ça va nous sonner une cloche, parce que voici un autre extrait qui nous dit que pour éviter que le soldat ne considère l'adversaire comme son semblable, on va lui inculquer l'idée que c'est un être méprisable, haïssable, en tout point différent de lui. À qui ça vous fait penser, mes amis? L'ennemi devient un être repoussant, un rat, une vermine, un être supérieur qui ne mérite pas de vivre et qui menace les proches du soldat, sa patrie, l'humanité tout entière. L'autre apparaissant sous des traits abjects, le processus d'identification est rendu très difficile et il devient souhaitable de l'éliminer. Bien sûr que nous pensons à l'État islamique en lisant ces propos, mais puisque nous sommes là-dedans, écoutez cela. Ça s'appelle « Acte de terrorisme » et c'est toujours extrait de « Plaidoyer pour l'altruisme » de Mathieu Ricard. L'écho médiatique des actes de terrorisme est immense. Pourtant, les chiffres de la plus grande des bases de données disponibles, le Global Terrorism Database, montrent que le nombre des morts imputables au terrorisme est infime comparé à celui d'autres causes de morts violentes. Selon l'agence d'observation qui tient à jour cette base de données, depuis l'attentat du 11 septembre, le terrorisme a causé la mort de 30 citoyens américains, soit 3 par an, alors que pendant la même période, il y a eu 18 000 homicides et que les accidents de la route ont fait 40 000 morts. Comme le souligne John Mueller, un Américain moyen risque plus d'être tué par la foudre, une allergie aux cacahuètes ou des piqûres de guêpes que par un acte de terrorisme. Et maintenant, tiens, une image d'altruisme qui va nous faire sourire. C'est dans le chapitre consacré à l'altruisme des animaux, du moins à leur bienveillance. Une bonobo essaie de faire voler un oiseau. France Deval raconte l'histoire d'une bonobo, appelée Kuni, qui, après avoir vu un étourneau s'assommer contre la paroi en verre de son enclos, le saisit délicatement et l'encouragea à voler avec des gestes de la main. Devant son insuccès, elle l'emporta au sommet d'un arbre, lui déploya les ailes entre ses deux mains comme s'il s'agissait d'un avion. Et ensuite, elle propulsa les tourneaux dans les airs en espérant, peut-être, du moins peut-on penser, qu'il allait s'envoler. Kuni avait donc tenu compte de ce que font habituellement les oiseaux. L'oiseau, trop mal en point, s'écrasa au sol. Kuni redescendit alors de son perchoir et pendant longtemps protégea les tourneaux moribonds des jeunes chimpanzés qui s'approchaient de lui. Et enfin, si les animaux font preuve de beaucoup de bienveillance envers leurs semblables, je ne suis pas sûre que l'homme fasse preuve d'autant de bienveillance envers l'agent animal. Voici, entre autres, un extrait de tout un chapitre qui est consacré à l'étendue des souffrances que nous infligeons aux animaux. Je vous dis tout de suite, je ne vous lirai pas les pages les plus terribles, mais sortez vos Kleenex et c'est assez épouvantable. Mais là, j'ai choisi cela quand même. Est-il concevable de souhaiter l'avènement d'une société plus altruiste tout en fermant les yeux sur le sort que nous infligeons aux milliards d'animaux tués chaque année pour notre consommation? Dans les élevages industriels, la durée de vie des animaux est d'environ 1/60 de ce qu'elle serait dans des conditions naturelles. C'est comme si l'espérance de vie d'un Français n'était que de 1 an et 4 mois. On confine les animaux dans des boxes où ils ne peuvent même pas se retourner. On les castre. On sépare à la naissance les mères de leurs petits. On les fait souffrir pour nous divertir, corrida, combat de chiens, de coqs. On les attrape avec des pièges qui leur broient les membres dans les mâchoires d'acier. On les écorche vifs. On les broie vivants dans des vies sans fin. C'est le sort réservé à des centaines de millions de poussins mâles chaque année. Bref, on décide quand, où et comment ils doivent mourir sans nous soucier le moins du monde de ce qu'ils ressentent. Excellente chanson de Calogero qui faisait suite à ce livre que je vous présentais aujourd'hui, Plaidoyer pour l'altruisme, la force de la bienveillance, disponible au SQLA, un livre signé Mathieu Ricard.
Des nouvelles et des livres.
Il y a 2 semaines, Michaël Delisle recevait le Grand Prix de Montréal en littérature pour Le Feu de mon père. C'est un livre où, bien évidemment, il est question du père et des amis du père qui ne disaient pas une arme mais un morceau et qui disaient d'ailleurs de façon plus générale le feu. Donc, le père qui disait souvent « j'ai mis mon feu dans le coffre à gants », il s'est débarrassé de son feu, d'où le titre de ce livre « Le feu de mon père ». Il y a, dans la presse, il y avait un article, à un moment donné, une critique où l'on disait « Michaël Delisle, écrivain discret, ne s'est jamais autant dévoilé que dans ce qu'il considère comme étant son livre le plus hybride, Le feu de mon père, à la fois portrait sans concession de son père psychopathe et hommage à la poésie, transformée en arme plus puissante qu'un gun pour tirer un trait sur le passé. Le coup est puissant », écrivait-on dans la presse de Michaël Delisle. Le feu de mon père, donc, du même Michaël Delisle, nous avons au SQLA Le désarroi du matelot et Tiroir numéro 24. Et puis, je voudrais préciser qu'il y a deux semaines, C'est l'ami Gabriel Nadeau-Dubois qui, pour son essai « Tenir tête », a reçu le prix littéraire du gouverneur général, section essai. J'aurais voulu vous donner plus de titres, mais j'ai constaté que tous ceux qui avaient été soit en nomination, soit qui ont été les heureux élus, n'ont pas été enregistrés par le SQLA.
Quelques nouveautés en rafale.
Et ça veut dire que l'émission tire à sa fin. J'ai, oui, pour vous quelques titres qui viennent de sortir en version audio. Je commencerai par ceci. Ça s'appelle Nazanin. C'est de Afshin Jam. Nazanin. N-A-Z-A-N-I-N. Peut-être que vous avez vu l'an dernier l'émission Tout le monde en parle, qui accueillait à la fin de l'année l'auteur de ce livre qui porte le même nom que celle qu'elle veut sauver de la mort. Nous sommes dans le couloir de la mort. Nazanin Fatehi attend son exécution. L'adolescente kurde a été jugée et condamnée en Iran pour avoir poignardé un homme qui voulait la violer. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Et à l'autre bout du monde, il y a Nazanin Afshin Jam, une ancienne Miss Canada devenue mannequin, qui entend parler du destin tragique de celle qui porte le même prénom qu'elle, une femme qui est déjà très impliquée dans diverses œuvres humanitaires et qui décide de tout faire pour lui sauver la vie et par la même occasion alerter l'opinion nationale sur le sort réservé aux femmes dans le pays qui l'a vue naître. Une très courte citation. « Le monde est un endroit dangereux, pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et ne font rien. » Un autre titre, « Des pêches pour Monsieur le curé ». Ça, c'est beaucoup plus léger. C'est de Joanne Harris. C'est la suite du best-seller « Chocolat », adapté au cinéma, vous vous en souvenez peut-être, avec Johnny Depp et Juliette Binoche. Alors, on retrouve Yann et Ryu qui ont établi leur chocolaterie sur un bateau amarré au quai de la Seine avec leurs deux filles. La vie parisienne se déroule paisiblement. Mais il arrive que le passé s'immisce dans nos vies sans qu'on ne s'y attende. Alors que le ramadan débute, ce sont les morts qui viennent hanter Vianne. Une lettre d'une de ses anciennes amies lui est confiée après la mort de cette dernière. Et celle-ci lui demande de retourner à Lansquenay, le village où il y a 8 ans, la jeune femme a ouvert sa première chocolaterie. La critique d'un lecteur qui nous dit que Joanne Harris nous offre encore une fois un roman gourmand. Comment ne pas tomber sous le charme de ce parfum de pêche, de ces effluves de chocolat et d'épices qui nous emmènent, bien entendu, dans un voyage olfactif, mais aussi un voyage où la haine, la condamnation de l'autre, l'exclusion semble régner. Un savant mélange de douceur et d'amertume pour une recette qui ne m'a pas déçue. Au contraire, un livre à déguster sans modération. Le silence des femmes, de Thérèse Lamartine. En janvier 2013, Léa Streliski, blogueuse sur voir.ca, avait utilisé ce titre pour intituler un billet émouvant sur le thème de la violence faite aux femmes, alors que l'Inde était entachée par des scandales d'agressions sexuelles immondes. Elle avait notamment confié « J'écrivais ce texte en me demandant ce qui se passerait si les femmes parlaient. Y aurait-il moins de viols? Y aurait-il plus de conscience? Y aurait-il plus d'hommes qui savent ce que ça fait aux femmes ?» Eh bien, l'auteur Thérèse Lamartine a-t-elle entendu cet appel? Toujours est-il que cette cinéaste, romancière et ancienne directrice de la condition féminine au Canada, au Québec et au Nunavut a décidé de traiter de cet épineux sujet en mettant de l'avant un homme, un psychanalyste compétent et membre de la société Select mondaine new-yorkaise qui, à un moment donné, dans son propre appartement, découvre une femme en train d'agoniser. Qui porte sur elle les stigmates de, de violences qui lui ont été faites. Alors, inutile de vous dire que le propos du roman de Madame Lamartine est non seulement d'actualité, mais aussi il est éclairant à bien des titres, avec bon, des petits bémols peut-être, mais c'est vraiment un très très bon livre. Et on nous dit d'ailleurs qu'au passage, il y a un court extrait d'un billet de Léa Streliski qui prend ici tout son sens et qui dit « Combien sommes-nous à avoir été abusés? Combien sommes-nous à connaître une femme qui l'a été? Je parie que vous en connaissez une. Je parie que c'est arrivé à votre sœur ou à votre cousine, à votre fille ou à votre mère, votre amie, votre voisine, ou que c'est arrivé à vous. » C'est fou, hein, parce que quelques années plus tard, c'est exactement comme si j'avais pris ces textes-là il y a seulement quelques semaines, ou même quelques jours ou quelques heures dans les journaux. Et puis enfin, Le cœur de l'homme de John Kalman Stefansson. Ah, et là je suis contente parce que je me dis que j'ai de la suite dans les idées. Le cœur de l'homme, c'est la suite de Entre ciel et terre et La tristesse des anges, dont je vous parlais il y a seulement 2 semaines à cette même émission. C'est donc une trilogie. Eh bien voilà, la trilogie est complétée et disponible au SQLA. Avec Le cœur de l'homme, qui est le dernier tome de cette fascinante trilogie qui, à travers le destin d'un gamin, nous amène dans l'Islande du 19e siècle et qui nous fait partager l'existence rude mais baignée de beauté de ses habitants. Alors, dans ce dernier volume, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que la lumière a chassé la nuit. On nous parle de la présence des Danois, des Anglais, des Norvégiens. On nous parle de commerce. On nous parle de l'Islande. C'est un livre poétique, une écriture envoûtante. C'est à méditer, c'est à relire. Un livre dont on a dit dans l'Humanité que la dimension lyrique et universelle tient au climat métaphysique, voire chamanique, qu'il instaure. Une poésie anime la prose et la réchauffe. Le cœur de l'homme multiplie les points de vue les plus variés d'existence dessinés par la géographie. Voilà mes amis, ces rafales que je voulais vous donner. J'ai plus de temps et il y a aussi, informez-vous, mais au SQLA, nous avons aussi d'autres titres de Mathieu Ricard que le plaidoyer pour l'altruisme. Alors, si vous désirez aussi vous procurer ces bouquins, eh bien, informez-vous, allez-y, lisez. Et j'ai été très heureuse de vous présenter cette nouvelle édition de l'émission Un livre découvert. Merci beaucoup Jean-Sébastien Laliberté. Merci à vous d'être là. Bonne lecture, bonne semaine, à la semaine prochaine.